Bonjour, je suis Didier Poligny, si formateur en droit à Comptalia.com. J'ai procédé à la correction de votre épreuve du E2 de ce DCG 2017. Donc, les éléments de correction indicative que vous avez sur votre plateforme sont complétés par ce message que je suis en train de vous enregistrer. En résumé de votre épreuve, et pour débuter, vous avez une épreuve qui est relativement classique. Le mot qui me vient plus particulièrement, c'est peut-être dense plus que complexe, puisque vous aviez trois dossiers avec un cas pratique, le premier relativement long avec huit parties. On attendait pour chacune de ces huit parties une réponse structurée, comme on avait pu l'aborder ensemble au niveau de vos copies, c'est-à-dire un rappel des faits, un problème de droit et une présentation des règles juridiques et une application au cas, ça c'est très important. Une question de cours, alors là il y avait une originalité puisqu'elle portait sur l'association, même si vous avez pu voir que ce n'est pas quelque chose qui arrive jamais, parce qu'on a déjà effectivement, on vous a déjà interrogé sur l'association, donc ça c'est quelque chose de relativement classique, ça arrive de temps en temps. Et puis enfin un troisième dossier qui portait en fait sur une étude d'un arrêt de la Cour de cassation. Alors c'est vrai que à la fin de votre travail, être obligé encore d'aborder une décision de justice, ça peut paraître long, mais c'est la nature de l'épreuve que vous avez, et c'est vrai que ce sont des éléments avec lesquels il faut arriver à gérer, et il faut arriver à gérer son temps. Voyons les trois dossiers donc l'un après l'autre. On ne va pas reprendre tous les éléments de votre correction, mais sur la première partie sur la SA Sucranti, vous aviez un certain nombre de questions qui portent en fait sur le nombre minimum d'actionnaires dans une SA, avec bien évidemment intégrer l'actualité autour de l'ordonnance de septembre 2015 et le nombre d'associés qui est un peu restreint pour ces sociétés. Ensuite, et ça aussi, ce sont des questions qui ne reviennent pas très traditionnellement, mais les règles à respecter quant à la mixité dans la composition des CA de SA. Donc ça, il fallait effectivement identifier ce point-là avec cette actualité de janvier 2017. En fait, depuis janvier 2017, les conseils d'administration doivent être composés, mais vous le saviez, au moins de 40% d'individus de chaque sexe. Donc ça, il fallait identifier ces points-là et vérifier bien sûr les seuils. Le troisième point portait sur la désignation d'un administrateur au sein d'une société anonyme. Donc, le problème de droit que nous avons proposé, à quelles conditions une personne peut-elle être désignée administrateur d'une SA? Donc, ça, il fallait être en capacité d'identifier ce point-là. Là aussi, pas de graves difficultés, puisque ce sont des thèmes que nous avons assez régulièrement traités ensemble. Donc, il fallait juste reprendre les éléments de votre cours et les quelques questions que nous avons pu vous proposer dans le cadre de nos propres exercices. Le dossier numéro 4, du moins la quatrième partie de ce dossier, à quelles conditions une convention peut-elle être qualifiée d'interdite? Donc là, il fallait identifier les différentes conventions réglementées et les conventions interdites plus particulièrement. Alors attention hein, de ne pas partir sur une présentation de toutes les conventions. Il fallait vraiment cibler votre propos, à notre sens, sur les conventions interdites et à quelles conditions cette convention peut être qualifiée d'interdite. Donc, vigilance par rapport à ça. Et puis, la question 5 était liée à la quatrième. On a choisi comme problème de droit quelles seraient les conséquences pénales en cas de convention interdite dans le cadre d'une SA, avec deux qualifications qui peuvent être potentiellement retenues, le délit d'abus de biens sociaux et le recel d'abus de biens sociaux. Donc, bien évidemment, on définit ces deux notions, on vérifie les caractéristiques de ces deux notions autour de l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Donc, il fallait être plus vigilant encore par rapport à ça. C'est indispensable effectivement de reposer ces éléments caractéristiques de manière spécifique. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau de notre correction écrite, nous on s'est bien attaché à reposer ces éléments à chaque fois. Question numéro 6, toujours dans la même logique, quelles sont les obligations d'un CAC en cas de découverte de faits délictueux? Là aussi, c'est une question que vous aviez déjà dans le cadre de vos propres exercices. Donc là, vos examinateurs ne font pas preuve d'originalité, ils sont que sur des points traditionnels en fait. Donc, là encore une fois, poser donc les obligatoires du CAC, la connaissance de faits délictueux, la dénonciation de ces faits auprès du procureur de la République. Mais là, on est sur des choses qui sont, comme je le disais en introduction, pas forcément complexes, mais un travail qui peut être relativement lent, puisqu'on n'en est qu'au point numéro 6. Point numéro 7. On passe sur la seconde partie. Quelle est l'étendue de la responsabilité d'un gérant associé de SNC? Ça, c'est le problème de droit que nous avons posé. J'espère que vous tous êtes partis sur quelque chose qui est un peu ressemblant. Il n'y a pas un problème de droit donné type, hein. Il y a des possibilités de formulation du problème de droit, mais il fallait être un peu dans cette logique-là. Point numéro 8, enfin, on a proposé comme problème de droit les conditions de cession de parts sociales de SNC à l'égard d'un tiers. Donc effectivement, je vous rappelle qu'une SNC est marquée par un fort intuitu personae et qu'il convient effectivement d'intégrer cela dans votre raisonnement et d'être en capacité d'en tirer un certain nombre de conséquences, et notamment que toute cession doit passer par l'unanimité des, en tout cas l'accord unanime des autres associés, élément qu'il fallait bien sûr identifier ici. Voilà, nous avons fait le tour de votre cas pratique, donc 8 points, et à chaque fois, vous le voyez, on a fait un rapide rappel des faits lorsque c'était nécessaire, ça ne l'a pas toujours été, mais en tout cas, vous avez 8 problèmes de droit, 8 règles juridiques, 8 applications au cas. Dossier numéro 2, quelles sont les modalités de création d'une association déclarée? Donc c'est peut-être le seul point d'originalité, puisque là on sort de la société à but lucratif pour aller dans des structures à but non lucratif. C'est la définition même de l'association. Quand est-ce que cette association est déclarée? Lorsqu'un certain nombre de formalités sont respectées, et ce sont ces formalités qu'il fallait identifier. Et ensuite on passait sur une autre problématique. On a repris la question de votre énoncé, hein, quelles sont les principales caractéristiques de la société coopérative? Et là, bien évidemment, on vient développer cette société coopérative. Et là aussi, ce sont des éléments que nous avons pu aborder ensemble dans le cadre de des questionnements qui vous étaient posés et des exercices que nous avons eu l'opportunité de faire ensemble. Enfin, vous aviez un troisième et dernier dossier sur un commentaire de document. Donc, on l'avait vu, c'était une partie, un exercice qui pouvait vous être proposé. Ici, on évoque au niveau du problème de droit, puisque la question vous a été posée à ce titre-là, le problème de droit que nous avons posé, dans quel cas la faute séparable des fonctions engageant la responsabilité personnelle peut-elle être reconnue à l'encontre d'un dirigeant de société? Donc, il fallait développer cette notion de faute séparable. C'est ça, en fait, qui nous importait ici particulièrement. Donc il fallait développer ces éléments de manière plus spécifique. Là encore une fois, je ne vois pas de grosses difficultés, si ce n'est la gestion du temps, puisque nous en sommes enfin de devoir, donc vigilance par rapport à ça. Des questions qui vous étaient posées, il suffisait de répondre à ces différentes questions, d'accord? Par contre, point numéro 4, on vous demande, vous exposerez à cette occasion l'ensemble des conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile. Là aussi, c'est un élément que nous avons déjà abordé ensemble. Donc, il fallait bien évidemment revenir sur un fait générateur, un préjudice, un lien de causalité. Ça, c'est l'élément clé, en fait, qui est à la base, c'est le fondement, en fait, comme on a déjà eu l'occasion de voir ensemble, c'est le fondement de toute action en responsabilité. Donc c'est ce qu'il fallait identifier ici de manière plus particulière. Donc vous voyez, un travail relativement classique, donc pas de grosses difficultés. Si ce n'est la nécessité pour vous d'être toujours du début jusqu'à la fin, parfaitement structuré, parfaitement organisé, de manière à bien montrer effectivement votre connecteur avec correcteur, certes que vous maîtrisez votre cours, mais que vous êtes en capacité de structurer et de développer un raisonnement qui permettra effectivement à votre correcteur de voir où est-ce que vous voulez aller, quels sont les éléments de droit que vous mettez en avant, et ça me paraît indispensable. Voilà, j'en ai terminé avec ces quelques remarques. Donc, n'hésitez pas à prendre connaissance de cette correction, en tout cas, cette proposition de correction que nous mettons à disposition sur la plateforme. Nous restons bien sûr à votre disposition sur le forum. Vous n'hésitez pas à nous solliciter sur celui-ci une fois que vous aurez pris connaissance de ces quelques éléments si vous avez encore des questions. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur le forum. Merci.